Bah, les triades, c'est les bandits, quoi. Les grosses mafias, oui. Et bah, ici, on ne le ressent pas, en tout cas, si on parle de mafia asiatique. On connaissait les mafias italiennes, moi je connaissais, mais... Ou auvergnates, ça je les connais bien, celles-là. Mais elles sont très discrètes, on n'en parle pas.
Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt cet après-midi, ni rao. Oui, vous le constatez d'emblée, de gros moyens ont été débloqués pour cette émission spéciale sur les triades chinoises, cette mafia dont l'extension à l'international inquiète. Pourquoi vous en parlez aujourd'hui ? Eh bien parce qu'on se disait qu'entre la menace russe, le volte-face des États-Unis qui nous abandonne et la Chine qui se dit prête à la guerre avec Washington, eh ben, on avait besoin de se détendre avec un sujet pas trop anxiogène, la mafia donc. Et une des plus dangereuses qui soit, puisqu'elle étend son emprise au monde entier, notamment aux États-Unis où elle déverse son fentanyl, analgésique addictif selon l'OMS, petit bonbon sympatoche pour Manon Mariani. Oui, zoom aujourd'hui sur cette mafia chinoise qu'on appelle les triades. Qui la dirige ? Qui les dirige ? Y a-t-il une ou des mafias chinoises ? Leurs ramifications s'étendent-elles jusqu'en France ? Comment est-elle fait pour infiltrer nos sociétés ? Quelle est leur part de responsabilité dans l'état de délabrement dentaire dans lequel se trouve mon auteur Gérald Darnaud, qui a été un des pionniers du fentanyl, rappelons-le, en France ? Pour répondre à ces questions, nous allons accueillir un invité qui a consacré un livre au sujet des triades, une enquête durant laquelle il a même rencontré Tseng Yingfu, le chef suprême d'une triade qui, c'est amusant, a le même surnom que notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, le tyran de fer. Zoom zoom zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Antoine Mitkin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi Antoine. Vous êtes journaliste, auteur, réalisateur de documentaires. On vous doit une enquête notamment sur les espions russes à la conquête de l'Amérique. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour nous parler des triades. Triades, la mafia chinoise à la conquête du monde. C'est le titre de votre livre qui est paru chez Talendier il y a quelques semaines. Sujet qui vous passionne puisque vous aviez déjà réalisé une série de documentaires pour Arte. Toujours disponible d'ailleurs, je le signale, sur la plateforme arte.tv. C'est passionnant, c'est effrayant. On va y revenir, juste le temps de vous présenter mes hommes de main à moi. Deux porte-flingues toujours prêts à dégainer, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Hommes et femmes.
Hommes et femmes. Hommes et femmes demain, c'est juste, c'est
merci
bien de le préciser, Quentin.
Je pense que c'est bien.
Quel homme déconstruit.
Déconstruit. Hein. Il est complètement déconstruit, oui, oui. Ce Quentin. C'est fou comme vous êtes France Inter. À vos côtés, Antoine, sans vouloir dédramatiser le contenu de votre livre, elle estime, je la cite, qu'on en fait un peu trop avec le fentanyl, un analgésique injustement diabolisé selon elle. Moi, j'en prends 6-7 dans mon Red Bull le matin, je suis en pleine forme, nous confiait la Marianoche, toujours hésitante à qualifier de drogue tout ce qui n'est pas de l'héroïne. Manon, tout à l'heure, vous
j'aime
nous direz...
pas le Red Bull en plus. Oui.
Très bien. Vous nous direz tout à l'heure qui est l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Et ben, un journaliste américain qui a enquêté non pas sur la mafia chinoise, mais sur la mafia japonaise, les Yakuza. Son livre a fait du bruit à l'époque et il est toujours sous protection du FBI des années après sa parution.
Face à vous, Antoine, un jeune journaliste moderne, on l'a vu, d'aucuns diraient même woke. Un garçon qui veille dans chacun de ses micro-trottoirs à déjouer les clichés, les images d'épinal, qui encrassent encore parfois, hélas, nos esprits pétris d'a priori. C'est pourquoi, pour parler des triades chinoises, il est allé interroger les passants dans le 13e arrondissement de Paris.
Hein, mon... Attention, Mathieu.
Bonne idée, ça, Quentin. C'est une bonne idée. Hein.
Vous avez commencé l'émission par Nihao. Vous mettez cette musique de massage à chaque fois que vous mentionnez l'Asie dans l'émission.
Alors, c'est-à-dire que dans la base de France Inter, il n'y a que ça comme musique chinoise. Donc, il faudrait effectivement.
De salon, en tout cas.
Ah, comment vous savez ?
Voilà.
Vous confondez la musique salon de massage avec une musique traditionnelle qui fait honneur à la culture chinoise. C'est vous qui êtes une honte, mon cher Quentin.
Oui, c'est moi, oui. Est-ce que vous connaissez le triangle de Choisy, Mathieu ?
Évidemment,
il faut traverser la Seine. C'est le quartier entre l'avenue d'Ivry et l'avenue de Choisy. Est-ce qu'il y a de la mafia sur place ? J'ai posé la question dans la rue.
Évidemment, vous n'êtes pas oui. Je suis de la mafia, enchanté.
Vous allez voir.
L'innocence de ce journaliste est étonnante. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test, qui ne dépassera pas les 5 minutes, si vous ne m'interrompez pas à tout bout de champ, nous entraînera à la découverte...
Répondre quand même.
Oui, on verra. Nous entraînera à la découverte des rituels pour intégrer les sociétés secrètes de la triade de Tseng Yingfu au Club du Gras de Cyril Lacarrière. Mais d'abord, Antoine Mitkin, vous dites que cette mafia chinoise, les triades, a déployé son emprise sur tous les continents. Ça veut dire y compris chez nous en Europe et y compris chez nous en France ?
Alors oui, alors je ne veux pas spoiler l'enquête dans le triangle de Choisy, mais...
L'enquête, c'est peut-être un bien grand mot.
Oui. Disons une enquête. Discussion.
Oui.
L'enquête en immersion. Oui, alors les triades sont présentes également en France, elles sont présentes en Europe, elles sont présentes en France, absolument. L'une de leurs grandes spécialités, c'est le blanchiment d'argent. Voilà. Bon. Alors, Je fais un petit bémol, elles sont compliquées à être identifiées, les triades en France, parce que la police française n'a pas une très grande culture anti-mafia, contrairement à la police italienne, par exemple, ou bien contrairement à l'Angleterre, qui, pour des raisons historiques sur lesquelles on reviendra peut-être, parce que l'Angleterre a été en contrôle de Hong Kong pendant longtemps, les Anglais et les Italiens identifient régulièrement des triades, c'est-à-dire arrivent à la hiérarchie, à les nommer. Les policiers français m'expliquaient que, évidemment, ils répriment le crime organisé ou les criminels, quels qu'ils soient, et lorsqu'ils font face à des Chinois, ils ont beaucoup de difficultés à remonter la chaîne et à essayer de comprendre ce qui se passe en bout de course. Et c'était valable notamment dans le cas d'affaires de blanchiment assez importantes qui ont été démantelées autour d'Aubervilliers notamment, qui brassait des centaines de millions et qui consistait à blanchir dans un système assez complexe l'argent du crime organisé, non pas seulement chinois, mais également
tous les crimes organisés,
européens, et notamment un certain nombre de trafics de drogue. Et bien là, je dois dire que les polices se sont arrêtées aux frontières de Hong Kong et de son système financier opaque.
Il est l'autre tyran de fer. Celui que vous n'avez pas encore rencontré, Antoine Wilkin, et qui fera l'objet de votre prochain livre, Cyril Lacarrière, le Al Capone de Ponto Combo. Un chef cruel mais juste, mais surtout cruel, qui chaque après-midi nous ramène aux origines de notre mot du jour. Alors, tyran de fer, dites-nous, les triades, d'où ça sort?
C'est au XVIIe siècle que les triades sont apparues, d'abord sous la forme de sociétés secrètes qui s'opposent à la dynastie des Mandchous, des Qing. Pour vous donner un repère rapide, c'est elle qui a régné sur la Chine entre 1644 et 1911, 267 années de règne, pas mal. Les Qing qui ont renversé les Ming, une lignée d'empereurs qui avait, elle, régné, était au pouvoir durant 276 ans, clairement, avec tout ce petit monde, le terme de dynastie n'est pas galvaudé. Eh bien, au bout d'un moment, les gens se lassent de voir des empereurs toujours issus du même moule, et surtout de la même ethnie. Les Qing sont des Mandchous, alors que les Ming sont des Han, les Han qui sont l'ethnie majoritaire dans le pays à l'époque, et qu'ils sont toujours d'ailleurs. Ils représentent aujourd'hui plus de 90% de la population chinoise.
Et c'est dans ce contexte que naissent les triades.
Oui, j'y reviens, ces sociétés secrètes se forme pour résister au pouvoir impérial et si possible le renverser et si possible réinstaller une dynastie Ming. Une ambition politique qui n'aboutira jamais et c'est comme ça que ceux qui rêvaient du grand soir vont finalement se muer en bandits de grand chemin. Peu à peu, ces sociétés secrètes vont délaisser leurs idéaux originels pour se lancer dans des activités criminelles, raquettes, extorsions, contrebande, jeux d'argent, etc., etc., etc. Et quand la dynastie Qing va enfin tomber en 1911, il ne se trouvera plus un membre de ces sociétés secrètes pour s'intéresser au pouvoir politique. Le business est devenu trop florissant. Rien que leurs activités liées au fentanyl, cet opioïde devenu une drogue, générerait des revenus de l'ordre de 20 milliards de dollars chaque année. Alors, où en sont les triades aujourd'hui? Comment ont-elles survécu alors qu'elles ont été déclarées hors la loi en 1949? Le pouvoir chinois est-il sous leur influence? Comment sont-elles implantées dans le monde? D'où viennent les noms de leurs groupes et de leurs membres? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril pour toutes ces questions qui, j'espère, trouveront réponse dans notre émission.
J'en suis sûr.
Antoine Wilkin, déjà, ça vient d'où ce mot triade?
Ça vient du 19e siècle, lorsque les Anglais ont pris possession de Hong Kong à la suite de guerres contre cette dynastie Mandchou des Qing que vous mentionnez. Ils se sont trouvés face à un certain nombre de... Donc ils ont pris possession de Hong Kong, qui était un port. Et qui dit port, dit évidemment, pour des groupes criminels, un lieu intéressant. Et donc, ils se sont retrouvés face à des organisations organisées de manière totalement opaque, totalement secrète, qui elles-mêmes s'intitulaient, alors j'ai évidemment pas le mot chinois, mais société secrète, et puis ensuite avaient toutes sortes de noms propres, qui avaient une dimension politique, qui avaient également une dimension affairiste, qui avaient une dimension de réseau et qui avaient une dimension criminelle. Et donc ils ont essayé de trouver quelque chose qui pouvait correspondre à des choses qu'ils connaissaient, les Anglais. Ils ont penser à ce mot de triade parce que, alors ça faisait allusion à une de ces triades qui s'appelait la société de la terre, du ciel et du feu, oui, mais oui. Aussi au symbole franc-maçon, à ces trois éléments de la franc-maçonnerie. Okay. Et la franc-maçonnerie à l'époque était extrêmement implantée et puissante au Royaume-Uni, et donc ils se sont dit tiens, ça ressemble un peu à ça, ce côté opaque, les rites, l'affairisme, etc., etc. Les triades n'ont strictement rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais ça vient de là.
Mais ça nous dit que c'est surtout un terme qui vient de nous, d'Occident.
C'est très intéressant parce qu'effectivement, ce sont peut-être les seules mafias au monde qui ont été nommées, dont la dénomination provient de l'extérieur.
Eux, ils ne s'appellent pas comme ça.
Mais non.
Eux, ils s'appellent absolument pas comme ça. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé mon enquête, donc je ne parle pas chinois, et j'ai toujours pas appris le chinois entre-temps, j'avais notamment un traducteur qui, en plus, est né à quelques dizaines de kilomètres de Hong Kong, donc une de leurs places fortes. Et lorsque je lui ai dit, traducteur donc chinois, enfin, franco-chinois, et lorsque je lui ai dit que je travaillais sur les triades, il m'a dit, qu'est-ce que c'est ? Donc ça m'a un peu embêté, parce que je me suis dit, bah, alors peut-être que je travaille pas sur quelque chose de très intéressant. Et effectivement, il a assez vite compris après de quoi il s'agissait.
Cyril nous disait qu'avant d'être une mafia, les triades étaient un mouvement politique. Est-ce qu'il en reste quelque chose de cette dimension politique aujourd'hui ?
Eh ben c'est, oui, c'est la question. Alors, elles se revendiquent, et c'est, ça fait partie de leur aura et de leur puissance. Si elles sont si puissantes, les triades, c'est pas seulement parce qu'elles ont à leur disposition des diasporas chinoises très importantes qui leur permettent de s'implanter un peu partout dans le monde, en extorquant d'ailleurs et en violentant d'abord ces diasporas, qui sont leurs premières victimes, évidemment, mais aussi parce qu'elles ont cette aura politique dont elles jouent énormément, en se présentant finalement comme des patriotes. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont cette aura ? Alors peut-être qu'on en parlera plus tard, mais en quelques mots, elles ont finalement fini par participer au renversement de cette dynastie qu'elles détestaient et à coopérer avec quelqu'un qui était l'un de leurs membres, qui s'appelle Sun Yat-sen, qui est le fondateur de la Chine moderne. Alors, il était membre d'une de ces triades pour réunir des fonds pour sa révolution. Il s'est évidemment empressé de couper les liens avec eux, mais ils sont revenus, mais les triades sont revenus par la fenêtre, en coopérant ensuite avec Chiang Kai-shek, le successeur de Sun Yat-sen. Je vous la fais très courte tout ça, mais c'est quand même assez intéressant. Elles sont devenues le bras armé de Chiang Kai-shek, notamment pour massacrer les communistes à Shanghai en 1927, tel qu'on l'a tous appris dans La Condition humaine, qu'on nous obligeait à lire au lycée sans qu'on comprenne exactement l'intérêt de ce texte, que moi j'ai compris donc bien plus tard. Et donc ensuite, elles sont parties à Taïwan avec Chiang Kai-shek. Donc, pour résumer, elles ont une dimension évidemment assez politique. Elles se prévalent de cette histoire-là, d'avoir participé à l'histoire de la Chine. Et ça leur permet évidemment, ça leur donne une aura pour recruter des membres, puisque leur intérêt central, c'est de recruter des membres. Donc il y a cette dimension politique. Puis il y en a d'autres. Il y a une dimension religieuse, dont il faudra qu'on parle aussi un peu. Et puis ça conduit finalement également tout ça à cette coopération aujourd'hui, à ce pacte implicite avec le Parti communiste chinois. Donc voilà, elles n'ont jamais cesser de faire de la politique jusqu'à maintenant.
France Inter, Zoom Zoom Zoom, Mathieu Noël.
Si comme moi, votre connaissance des triades se limite à ce que vous en avez appris dans le film Les Anges Gardiens avec Christian Clavier, vous êtes au bon endroit, car une remise à niveau s'impose. Zoom cet après-midi sur cette mafia chinoise, ces mafias chinoises qui étendent leur emprise sur le monde entier avec notre invité, le journaliste Antoine Witkin, qui a enquêté et qui en a tiré un documentaire et un livre, Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, c'est paru chez Talendier. Antoine, qui concrètement compose cette mafia et recrute chez qui ?
Chez les Chinois. Alors, des triades, il y en a, les spécialistes, on en a identifié à peu près 6 principales. Mais en fait, il y en a très certainement des dizaines, parce qu'en fait, il n'y a pas de label pour créer sa triade. Elles sont souvent les triades. Alors, elles sont, leur base arrière se situe dans des endroits quand même très précis, qui sont Hong Kong, Macao et Taïwan. Bon. Et, alors... Elles sont parfois composées, j'imagine, de quelques dizaines de membres. Il suffit juste de créer sa triade. Bon, les 6 plus importantes sont évidemment des triades qui ont chacune entre 80 à un siècle d'existence, évidemment, on s'en doute. Elles recrutent des Chinois. À ma connaissance, quasiment exclusivement des Chinois, même si, c'est ce que je raconte dans le livre, comme une boutade, le tyran de fer dont vous parliez, qui partage d'ailleurs son surnom avec votre rédacteur en chef, c'est ça, voilà. M'avait proposé à la fin d'une soirée bien arrosée
de rejoindre.
Alors, pas de rejoindre.
Ah, c'est ce que je vous disais, je vous soupçonnais.
De créer une filiale parisienne d'Alliance Céleste, de sa triade. Bon, ouais, c'est évidemment une blague. Donc, ils recrutent parmi les Chinois et souvent parmi les Chinois de même origine. C'est-à-dire que un certain nombre de triades basées à Hong Kong, par exemple, sont pour beaucoup composées de gens qui viennent de telle ou telle région de Chine continentale.
Que des hommes ?
Alors, c'est très masculin, absolument, c'est très masculin. Moi, j'ai identifié que des hommes, je n'ai vu que des hommes. Lorsque j'ai passé effectivement toute une soirée, une partie de la nuit, donc avec ce chef d'Alliance Céleste, donc probablement la triade la plus puissante du moment. Il y avait une femme qui était une de ses bonnes amies, présentatrice télé, qui faisait office, puisque c'est la première fois qu'il parlait à un journaliste de conseillère, de conseillère média, disons. Mais il y avait effectivement que des hommes. Donc c'est un milieu évidemment assez misogyne, Antoine, assez machiste. Les femmes sont en général des prostituées dans cet univers des triades.
Pour une société secrète, surtout si c'est la plus puissante, c'est très bizarre de parler à un journaliste. Qu'est-ce qui l'a poussé à accepter cette interview ?
Alors, pas forcément si bizarre. Alors, bon, pour effectivement vous répondre de manière un peu plus telle que je me suis posé moi les questions, j'ai pas tout de suite eu la réponse et j'ai essayé de l'avoir assez vite parce qu'effectivement, dans ces situations-là, il vaut mieux essayer de comprendre pourquoi les gens acceptent de vous rencontrer.
Quel est leur
intérêt, a fortiori, si ce sont des mafieux, pour effectivement essayer d'éviter que ça se passe mal par la suite. Et je dois dire que j'ai commencé à en avoir une idée lorsqu'il est arrivé. Donc je l'avais contacté en fait. Alors le contact était compliqué. Je me suis appuyé sur un excellent fixeur, comme on appelle les journalistes qui sont des relais sur le terrain, qui ensuite on a travaillé ensemble pendant des semaines. On a ensuite fait appel à des intermédiaires. Parfois les portes sont fermées. Et puis il y a un de ces intermédiaires qui a estimé qu'il avait suffisamment de poids, qu'il pouvait garantir en fait à ce tirant de fer le fait que l'interview se passe bien, enfin, ou que c'était dans son intérêt. Mais en tout cas, il est arrivé au lieu du rendez-vous, il est arrivé qu'un déploiement de force absolument hallucinant. Il y avait, je crois, 6 ou 7 convois, une cinquantaine de gardes du corps.
Ah, c'est vraiment un film, quoi.
C'était vraiment un film. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Mais en fait, ce déploiement de force m'a déjà donné, au bout d'un moment, une petite indice. Quand j'ai demandé un peu plus tard, alors je vous raconte ça dans un désordre chronologique, mais j'ai demandé ensuite à un de ces sbires, par mon traducteur, est-ce que, là c'était quand même impressionnant quand vous êtes arrivé, est-ce que je pourrais, puisque j'avais une caméra avec moi, est-ce que je pourrais filmer à nouveau l'arrivée, parce que évidemment j'ai pas osé sortir ma caméra quand ils sont arrivés.
Et
le type m'a dit oui bien sûr, et là je me suis dit, en fait ils veulent montrer leur force, c'est de la com. Et donc pour vous répondre de manière plus générale, donc dans ce cas-là, je pense qu'il voulait montrer sa force. Je pense qu'en fait toutes les mafias en fait ont intérêt au soft power, à montrer leur puissance, à montrer qu'ils sont très puissants, très dangereux, très riches, parce que évidemment quand vous êtes un mafieux comme le chef d'Alliance Céleste dans ce cas-là, ou bien un mafieux de Cosa Nostra ou de la mafia russe, évidemment si vous allez voir un chef d'entreprise que vous voulez extorquer et auprès de qui vous voulez monnayer votre protection, c'est évidemment plus simple de déjà avoir un nom. Donc je pense que c'est toutes ces raisons-là, plus dernière chose, le fait que je pense qu'il était curieux, en fait, dans un esprit un peu paranoïaque, de se dire mais qu'est-ce qu'un Français pense de moi, me veut et pourquoi il veut me voir.
Lui, il n'est pas allé jusqu'en Chine.
Oui, mais évidemment, ça va paraître fade.
Dans le 13e arrondissement de Paris, vous avez fait votre mieux, Quentin, on va pas vous en vouloir.
Attendez la suite de cette petite investigation.
Oui, Quentin, donc vous êtes parti complètement la rue dans le 13e.
Sous les conseils de Cyril Lacarrière, son adjoint Pierre Courade, nous conseillait le quartier de Belleville, dans le Clicheton. On est pas mal dans l'équipe. Vraiment. Je me suis rendu sur place. Enfin, si j'ai choisi le 13e, c'est parce que, en préparant l'émission, je suis tombé sur ce qu'on appelle le triangle de Choisy. Je connaissais pas entre l'avenue d'Ivry et l'avenue de Choisy, située en dessous du quartier des Olympiades. Nous voilà dans le Chinatown parisien. Commerce, restaurant, galerie commerçante. C'est ici que je rencontre Chan, qui bosse dans une banque. Peut-il me parler des triades ?
Ah, c'est la mafia chinoise, vous parlez de mafia. Ah ouais.
Qu'est-ce qu'on sait des mafias ?
On sait pas trop, tout est caché en fait. Rien ne se dit.
Bon, je vais retenter ma chance un peu plus loin avec Roger, survette bleue, avec les cheveux gris. Je vois que le sujet est délicat.
Vous voulez interviewer sur quoi ? Vous avez une carte France Inter ?
On parle de la mafia chinoise.
Ah d'accord. Alors là, je ne vais pas me prononcer. Je suis né dans le quartier, je les ai vus arriver et j'ai pas envie de me prononcer.
Je comprends. Est-ce que vous avez peur ?
Mais on vit dans un monde anxiogène, on a peur de tout.
Je creuse un peu et je lui parle de la communauté chinoise du 13e arrondissement de la capitale.
Bon, c'est comme ça. Après, c'est des gens qui s'installent dans le monde entier, ils étudient notre comportement, ils savent comment on vit. Et après, je ne sais pas ce qu'ils en font. Est-ce que c'est le début du péril jaune
La mafia, ça se traduit par souvent du recel de jeu, d'alcool, de prostitution. Est-ce que vous avez vu le quartier évoluer en ce sens-là ?
Bah, de la prostitution, il y en a partout. Là, elle est évidente. Vous allez en croiser là dans quelques secondes. Alors, ce sont des gens qui sont très organisés, très discrets. J'ai presque envie de me dire que je me sens en sécurité ici. C'est-à-dire que à 1h du matin, il ne se passe rien ici. On ne va jamais se faire agresser.
Bon, beaucoup de raccourcis, de clichés aussi, mais on va pousser encore un peu.
Ils sont à fond dans le business. Ils sont là pour... ils sont très courageux. Ils travaillent beaucoup. Ce sont des gens qui ont des qualités, en tout cas ils sont gentils, sont serviables. Est-ce qu'ils préparent quelque chose? Je me suis toujours posé la question, moi qui suis né ici, je les ai vus arriver hein, en 75, ça nous a fait le rôle. Sous couvert, ils faisaient de la pub pour Chirac à l'époque, donc sous couvert des politiques sûrement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à part un micro-trottoir et puis se satisfaire de ce qu'on entend dans les rues
Voilà, bah, je vais changer de métier. Ouais. Je vous recommande l'émission qu'on avait consacrée à la minorité modèle et à tous les clichés dont on affuble les personnes originaires d'Asie avec Zoom Zoom Zen. Je continue avec ces deux jeunes femmes qui découvrent notre thème du jour.
Les triades chinoises. Bah, je vous dis, vachement cliché en vrai. Hein. Bon, non, en vrai, même pas mafia, genre, il y avait juste des gens, quoi, qui habitent là.
Pour elle, rien à signaler, trop cliché. Alessio et Federico sont potes. Quel regard posent-ils sur...
Les triades. Soit on parle des mafias chinoises, soit d'un type de cartel économique entre différentes grandes entreprises multinationales.
Ouais, c'est la première option.
Les Chinois?
Ouais. On parle de la mafia en général.
Bah, je sais qu'il y a du crime organisé, mais ça me regarde pas trop, donc j'ai pas trop de problèmes avec.
Bon, c'est pas en répondant comme ça qu'il va avoir des problèmes. Que sait-il, Federico?
Je sais qu'on peut vendre des billets de 500 euros, mais sinon...
Si?
Bah, y a des gens qui vous les achètent, les gros billets. Ah ouais? Je sais aussi qu'il y a des salles pour jouer de l'argent, mais sinon...
Il y a des combats de coq, des fois.
Quoi? De quoi? Non, c'est pas vrai.
Non, avant, il y en avait, maintenant, je sais pas.
De quoi?
Des combats de coq.
Alors, fantasme ou part de réalité, en tout cas, ça fait toujours parler. Ma dernière rencontre, c'est ce voisin qui surplombe l'avenue d'Ivry, fourrure d'un autre temps, chapeau et cigarette à la main.
Bah, les triades, c'est les bandits, quoi. Les grosses mafias, oui. Et bah, ici, on leur ressent pas, en tout cas, si on parle de mafia asiatique. On connaissait les mafias italiennes, moi, je connaissais, mais... Ou auvergnates, ça, je les connais bien, celles-là. Mais elles sont très discrètes, on n'en parle pas.
Attendez, parlez-moi de ça, c'est quoi les triades ou les mafias auvergnates?
Elles sont tellement cachées qu'elles gèrent et on n'en parle pas. Elles tuent pas, je crois pas. Elles sont gentilles, quoi. Mais elles gèrent, elles ont du pouvoir. Ouais.
On pense aussi à la mafia marseillaise. Il y a des mafias dans toutes les régions, mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Notre invité va y répondre. Le voisin me dit que le quartier, lui, est calme.
Et il n'y a pas trop de policiers, ce qui est... Ça c'est agréable, ça. Mais la police ne vient pas ici parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas, ils n'ont pas le droit de venir ici parce qu'il y a grand-chose, mais ça ne gêne personne.
C'est intéressant.
Je sais pas. Ça, c'est, en tout cas, on sait pas, on n'a pas la réponse. Il n'y a pas beaucoup de policiers ici, ils ont ordre, certainement, de ne pas venir trop traîner là.
La prostitution, j'en ai vu un petit peu là.
Il y en a, ouais. On n'arrive pas à voir, pourtant on a les fenêtres dessus, on ne voit pas de macro, on ne voit pas de trucs. Et elles sont certainement tenues, quoi, ces femmes-là, elles ne sont pas libres. Quoi. Mais on ne le voit pas, on n'arrive pas à voir, pourtant on a les fenêtres dessus. Elles gèrent bien, enfin ceux qui les gèrent bien encore une fois. On ne voit rien, mais rien du tout.
Alors, est-ce qu'il existe une mafia chinoise dans Paris? Est-ce qu'on mélange diaspora et mafia? Est-ce que c'est un raccourci qui peut tourner très vite au racisme? En tout cas, mes rencontres sont le fruit de ma virée dans le triangle de Choisy.
Puis on aura certainement une dépêche AFP, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une gentille mafia, c'est la mafia auvergnate. Auvergnate. Ils sont
et
gentils.
Et il ne faut pas confondre les Auvergnats avec la mafia auvergnate aussi.
Ah non, attention, là aussi, on
bascule. Tous les Auvergnats sont pas membres de la mafia auvergnate.
C'est très juste. Antoine Wittkid, on sent les gens moyennement motivés à parler du sujet des triades. Qu'est-ce qu'on sait de leur implantation, je parle au conditionnel, parce que je ne sais même pas s'il y en a, dans le 13e arrondissement? Est-ce que les triades sur lesquelles vous avez enquêté, elles ont des ramifications qui sont dans Paris?
Ce qui est sûr, et ça j'imagine que ça se passe dans le 13e arrondissement à Paris comme ça se passe dans la banlieue de Londres, de Bruxelles, de Milan ou d'ailleurs, il y a évidemment des organisations criminelles chinoises organisées ou des triades qui utilisent le fait que des diasporas chinoises sont présentes pour s'implanter. Et quand elles s'implantent, et ça se passe depuis le 19e siècle, et d'ailleurs également en Amérique du Nord, eh bien elles commencent en fait d'abord par extorquer, racketter les Chinois qui sont là, protection contre un environnement un peu compliqué. Ce sont évidemment des communautés qui sont notamment au départ évidemment un peu repliées sur elles-mêmes pour des raisons linguistiques, par exemple. Elles commencent également par... parce que l'une de leurs grandes activités historiques, c'est le trafic d'êtres humains, donc par faire venir des gens à fond de cale aux États-Unis ou ailleurs, des prostituées également. Enfin, donc, les diasporas chinoises, et c'est valable partout et donc également pour la France, sont leur premier vivier d'implantation et de leur premier vivier d'exploitation. Donc voilà, pour vous répondre, j'imagine qu'il y a évidemment des groupes criminels organisés chinois dans le 13e arrondissement. Je ne suis pas allé enquêter, contrairement à vous.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
L'heure du Zoom Zoom Test qui va nous emmener aujourd'hui à la rencontre des sociétés secrètes et leurs rituels. Et puisque nous évoquons aujourd'hui les triades chinoises, partons justement pour l'Empire du Milieu. Nous sommes en 2009 et l'agent Cyril the Courier est parti infiltrer la vermine communiste bouffeuse de pangolins. Oui, afin de déstabiliser le régime, la CIA a décidé d'envoyer son meilleur agent pour infiltrer une triade. Son meilleur agent étant souffrant, une courante, comme on dit dans le petit milieu du contre-espionnage, il se rabatte donc sur Cyril. « Vous connaissez bien la culture chinoise ?» lui demande son supérieur. « Parfaitement, j'ai vu 110 fois le sketch du chinois de Michel Lev. Parfait, allez-y. » Voilà donc l'agent la carrière sur le terrain. Mais d'après vous, Manon Quentin, quand Cyril pourra-t-il avoir la certitude qu'il a vraiment été accepté au sein d'une triade? Quand il aura passé un entretien avec le maître de l'encens? Quand il aura bu un Bloody Mary? Ou quand il se sera fait couper un petit doigt?
Si. Pardon.
Bah, c'est un peu facile ça.
Si.
Ah. Est-ce qu'on n'est pas dans le cliché même?
Réponse A.
Non, je suis sûr que c'est C.
Je donne l'opportunité d'une autre réponse.
A et C.
Bon, A et B, c'est une bonne réponse de Quentin. Je vais la. Bon, je l'accorde. Voilà, vous êtes à moins 1 comme ça. Oui. Effectivement, réponse A et B, dans les triades, le maître de l'encens est en quelque sorte le DRH chargé du recrutement et des rituels. Pour faire partie de la team, on décapite d'abord un coq pour mixer son sang avec de l'alcool. Miam, miam, génial cette infiltration, s'était exclamé Cyril à ce moment-là. Le novice jure alors de rester fidèle à la triade, puis il s'entaille un doigt et verse quelques gouttes de sang dans le shaker et tout le monde boit un coup. Exotique, mais pas beaucoup plus qu'un happy hour ordinaire avec Manon. Attention! Ce rituel n'implique pas de se couper entièrement le doigt, mais juste de l'entailler. On n'est pas des monstres dans les triades. En revanche, on est un peu plus des monstres chez les Yakuza. C'est en effet dans la mafia japonaise que ce rituel existe. Un rituel qui intervient à quelle occasion? Quand on tue son premier rival? Quand on devient Oyabun, le chef du clan? Ou quand on commet une boulette?
A.
C.
Réponse A.
C'est pour vous, Manon. Oh ah attention, on n'a pas le droit d'aider. On n'a pas le droit d'aider Manon. Mais elle a répondu avant, c'est une bonne réponse de Manon. Heureusement que Quentin n'est pas Yakuza.
Ça vous est déjà arrivé?
Bah non, parce que ma mère est morte.
Il n'aurait à l'heure actuelle plus aucun doigt. Le Yubitsume consiste à se couper l'auriculaire, effectivement pour présenter ses excuses au chef en cas de connerie ou manquement à ses devoirs, et si on récidive, bah oui, on continue avec l'annulaire, etc., etc. Et oui, se couper soi-même, car on doit faire tout seul, et remettre le bout de knacky enveloppé dans un tissu à son Oyabun. Pierre Courade peut aller s'acheter des moufles, il nous doit 3 phalanges suite à ses quiz de janvier. Après avoir vomi son cocktail d'intronisation, Cyril, recalé des triades, fait son rapport à la CIA, la sanction tombe. Il devra aller au bout de la Hell Week des Navy Seals, sinon il sera muté à la circulation à Ponto Combo. Manon Quentin, que devra-t-il endurer pendant cette semaine de l'enfer chez les Navy Seals? Il n'aura droit qu'à 5 heures de sommeil en 5 jours, soit à peu près mon quotidien. Il devra parcourir 320 km à la nage et en courant, où il ne devra manger qu'un seul repas par jour.
A, B, C, les non. 3.
A, seulement A.
Ah bon? AB,
bonne réponse de Manon Mariani. Et oui, quelle vivacité. Avec un taux de réussite de seulement 20%, le stage de formation des Navy Seals est l'un des plus durs au monde, avec en point d'orgue cette semaine de l'enfer. Au programme des réjouissances, rester dans l'eau glacée le plus longtemps possible, porter des troncs d'arbres de 150 kg, le tout agrémenté d'une privation de sommeil qui pimente un peu l'exercice. Vous vous en doutez, Cyril n'ira pas au bout et quittera donc la CIA et les États-Unis la tête basse pour se mettre au service du seul qui vaille finalement, Jésus, notre Seigneur. Mais voilà, pour atteindre son nouvel objectif, rejoindre l'ordre des Templiers, il va falloir que Cyril se batte en duel contre un commandeur de l'ordre des Templiers, marche sur l'eau ou remplisse un formulaire Google Form.
C'est
la réponse C. Eh oui, petit piège, tout fout le camp, même les Templiers sont mis à la page. Vous pouvez candidater désormais en ligne avec lettre de motivation et CV. Et tout fout le camp. Mais attention, c'est en Italie qu'on termine ce petit tour d'horizon des rituels des sociétés secrètes. Nous sommes en Calabre, berceau de la terrifiante organisation criminelle dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, mais je vais me lancer là. Ndrangheta.
J'y arriverai pas non plus.
Ça
doit pas être ça.
Là où sévit le clan des Mariani, d'après vous, Manon, Quentin, on peut appartenir à cette mafia dès sa naissance, à l'adolescence ou en faisant un job dating?
A.
A, B, C.
A et B, Quentin, oui, A et B, parfaitement. Parce que lorsqu'un enfant naît dans une famille de l'organisation, on place de part et d'autre de son corps un poignard et une clé. Si le nouveau-né touche le couteau en premier, ça signifie qu'il sera un ndranghettiste, comme on dit évidemment avec l'accent. Puis, pour ses 14 ans, il passera devant le conseil pour jurer allégeance au clan qu'il placera au-dessus de sa propre famille, au-dessus même de son propre sang. De façon plus générale, on peut être accepté dans le clan à partir du moment où on a commis quelque chose d'illégal, ce qui fait que Quentin, recherché, je le rappelle, par l'inspection et l'URSSAF, a encore toutes ses chances d'intégrer la ndrangheta. Manon, comme... Non, Manon, non. On me signale en régie d'invasion, on me dit Manon 3-0. C'est impossible vu que Quentin a eu plein de bonnes réponses.
Oui, c'est vrai.
Alors autant, autant j'ai une dent contre Quentin.
Allez-y, allez-y.
Oui, dites-nous, ça a été mal calculé.
Ça a été mal calculé.
Moi, j'ai compté, je crois que c'est à peu près du 3-2. Non,
c'est à peu près du 3-2, c'est notre invité qui dit ça. Mais c'est Manon qui l'emporte néanmoins. Zoom sur les triades cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec le journaliste Antoine Vinkin qui a enquêté sur cette mafia chinoise qui s'exporte désormais dans le monde entier. Son livre, je le rappelle, Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, est paru il y a quelques semaines chez Talendier. Antoine, à quel moment les triades ont commencé à se diffuser au-delà des frontières chinoises ?
Alors juste avant de vous répondre, je rebondis sur le quiz et vous parlez du Google Form.
Ouais.
Tout fout le camp et tout change, y compris dans les triades.
Ah oui, là aussi.
Puisque elles ont eu pendant effectivement longtemps toutes sortes de rituels appuyés d'ailleurs sur des traditions un peu religieuses, parce qu'évidemment pour assurer une emprise sur les êtres, il vaut mieux utiliser aussi un peu de religion. Ça fait jamais de mal, de la politique aussi un peu de religion et donc des rituels comme ceux que vous évoquiez du coq, du sang, etc. Ça évolue. J'ai dû rencontrer quand même un certain nombre de mafieux chinois, de membres de triade. Ils m'ont tous mentionné un rite un peu différent.
Ah,
parfois, c'était jurer fidélité sur un pistolet. Parfois, c'était aller prier au temple. Et deux jeunes mafieux m'ont raconté qu'en fait, tous ces rites, c'était quand même un peu révolu. Et que maintenant, en un échange WhatsApp, on prêtait allégeance à la triade. Et ce qui permettait aussi potentiellement de changer d'allégeance et de prêter allégeance à une autre triade.
Donc,
vous voyez que tout fout le camp.
Ah oui,
et comment on devient chef d'une triade ?
Alors, dans le cas, j'en ai rencontré deux, un ancien chef et un chef actuel. Eh bien, le chef, le grand chef, le tyran de fer, donc, lui a commencé petit voyou, il s'est fait arrêter. Il n'était pas membre d'une triade. En prison, il a rencontré quelqu'un qui est devenu son parrain. Donc, en général, on trouve un parrain personnel qui peut être vraiment à tout petit niveau. Hein. Ce parrain, au départ, il devait régner sur quelques rues, je ne sais où. Et puis ensuite, donc, il s'est mis au service de ce parrain. Il est devenu la branche, en fait, du parrain, qui était l'une des branches de la triade générale, a pris de l'ampleur. Le tyran de fer donc, est devenu chef des tueurs de la triade, engagé dans des rivalités contre une sous-branche concurrente. Enfin, je ne sais pas si vous suivez jusqu'à là, mais c'est intéressant parce que ça en dit long aussi sur le fonctionnement de ces organisations qui se présentent comme des sortes de d'entités tout à fait puissantes, respectables, etc. Et en fait, les gens s'entretuent pour gagner de l'argent, tout simplement, hein, puisque c'est ça l'objectif de la triade. Et donc, pour terminer, il a fait à nouveau de la prison. Il m'a d'ailleurs expliqué que faire de la prison, c'est évidemment sacrifier sa vie, comme il me disait, mais gagner de l'avancement dans la triade, puisqu'on se fait des contacts, on gagne en réputation. Il a passé, je crois, 19 ans, lui, en prison en tout.
Ah, il a bien avancé, alors.
Et puis ensuite, il a pris la tête de cette branche de la triade générale. Et puis un jour, eh bien, les différents parrains des différentes branches se sont réunis. Il a fallu remplacer le parrain des parrains précédents, qui est mort de sa belle mort. D'ailleurs, je crois que j'ai montré quelques images de son enterrement qui sont absolument hallucinante, dans ma série, pardon, mais je le raconte aussi dans le livre, d'ailleurs, et donc il a été élu jour, et là il m'a dit, écoutez, bah, je vous le cache pas, c'était le but de ma vie, de devenir le chef, le parrain des parrains.
Grave,
voilà.
Antoine, on évoquait les États-Unis tout à l'heure avec cette crise du fentanyl, vous citez des spécialistes dans le livre qui estiment que cette crise des opioïdes, elle est voulue par le régime de Pékin pour déstabiliser l'Amérique. C'est une guerre que mène la Chine contre les États-Unis via les triades ?
Alors ça, je serais un tout petit peu plus nuancé là-dessus. Alors, les triades participent, mais aux côtés de d'autres, ce ne sont pas les seuls, au trafic des précurseurs du fentanyl, donc c'est les composants chimiques qui permettent de fabriquer le fentanyl, vers le Canada et surtout vers le Mexique, où les cartels mexicains prennent le relais.
D'accord.
Ensuite, elles participent également, mais parmi d'autres, au blanchiment de l'argent issu du trafic, d'ailleurs. Ce qui est assez important dans ce genre de système, parce qu'on le sait, pour les criminels, blanchir l'argent, c'est parfois plus compliqué
que
l'activité criminelle elle-même. Bon. Donc ça, c'est pour le rôle des triades. Donc elles sont impliquées, parmi d'autres, elles ne sont pas les seuls acteurs chinois à être impliqués. À partir de là, est né un soupçon chez les autorités américaines que le fait que ces flots de fentanyl puissent partir de Chine pour aller provoquer une crise sanitaire absolument majeure aux États-Unis. Mais majeure, quand on dit majeure, c'est vraiment majeur. Des centaines de milliers d'overdoses, enfin, c'est quelque chose d'assez terrifiant. Et né le soupçon que donc les autorités chinoises laissaient
faire.
Fermaient
les yeux ou...
Personne n'a jamais pu en apporter la preuve. Un rapport du Congrès très récent l'affirme. Moi, je serai un peu plus prudent. On n'en a pas encore eu la preuve. Les autorités chinoises, évidemment, régulièrement assurent essayer de faire le maximum pour cesser ce flot de fentanyl. En fait, si on en a aussi ce soupçon, c'est que ça serait une sorte de guerre de l'opium inversée. Puisqu'on
oui,
en parlait au début de cette conversation, les triades ont commencé dans le business de la drogue avec les Anglais à Hong Kong qui ont imposé à la Chine l'importation et la consommation d'opium, donc via Hong Kong. Les triades ont donc participé à ça. Ça fait énormément de mal à la Chine. Et donc, certains voient donc, là-dedans une vengeance machiavélique.
Vous écoutez France Inter et c'est toujours, ma foi, une très bonne idée. Et c'est surtout l'heure de découvrir, Manon, la personne à suivre.
Oui, je vous présente Jake Adelstein. Il a 55 ans, il est américain et il est connu pour être le journaliste qui a réussi à infiltrer la mafia japonaise, les Yakuza. Car c'est à lui qu'on doit le livre enquête best-seller Tokyo Vice, une plongée fascinante dans la pègre japonaise sur laquelle il a enquêté pendant plus de 10 ans. Il va notamment s'intéresser à l'un de ses parrains les plus dangereux, Tadamasa Gotō. Il dévoile qu'il a négocié une grève de faim aux États-Unis contre des informations pour le FBI. À cause de ces révélations, Jake Adelstein est traqué et menacé de mort. Il est contraint de partir du Japon pendant un temps. Sa famille est rapatriée aux États-Unis. Encore aujourd'hui, il est obligé d'être accompagné d'un garde du corps quand il est au Japon, un ancien Yakuza du nom de Tsunami. J'ai envie de dire, ça ne s'invente pas. Mais l'histoire entre la mafia japonaise et Jake Adelstein ne date pas de Tokyo Vice. Elle débute bien avant, dans les années 90, quand il était encore tout jeune journaliste. Passionné par le pays et bilingue, il décide d'aller travailler au Japon. Il commence par bosser pour la rédaction du plus grand quotidien japonais. Il couvre les faits divers et c'est comme ça qu'il commence à s'intéresser aux Yakuza. Ses récits attirent l'attention des plus grands journaux américains et il va publier ses enquêtes par la suite là-bas. Celle sur Tadamasa Gotō est par exemple publiée dans le Washington Post avant d'être dans son livre. Son livre, justement, Tokyo Vice, a aussi été salué par son homologue italien Roberto Saviano. Journaliste lui aussi, c'est sur la mafia napolitaine qu'il a enquêté et consacré son livre événement Gomorra en 2006. Depuis, il vit sous protection nuit et jour, 24 heures sur 24, menacé depuis 20 ans par la mafia napolitaine. Jake Adelstein, quant à lui, a continué son immersion dans la mafia japonaise. Il a publié la suite de Tokyo Vice, Tokyo Détective, qui parle notamment de la corruption des Yakuza qui a entraîné le drame de Fukushima. Il a aussi participé à l'adaptation de Tokyo Vice en série pour HBO. Mais aujourd'hui, Jake Adelstein ne veut plus entendre parler des Yakuza. Il dit vouloir aller de l'avant et s'est même converti au bouddhisme. Et oui, le zen a remplacer la mafia, et c'est peut-être pas plus mal.
Merci Manon. Antoine Mitkin, vous avez déjà reçu des menaces. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller en Chine sans protection particulière ?
Alors, non, j'ai pas reçu de menace. J'ai même cru comprendre que la plupart des mafieux que j'avais rencontrés étaient plutôt satisfaits. Certains même assez satisfaits, qu'on s'intéresse à eux en considérant que
flatté,
c'était...
Flatté,
et encore
c'est paradoxal de vouloir faire parler de soi quand on est une triade.
Je pense qu'il faut, quand on est une triade, il faut faire parler de soi. Si on ne vous connaît
soft
pas...
Power.
On ne fait pas peur.
Si vous ne connaissez pas la Cosa Nostra et que vous êtes un restaurateur et qu'un jour quelqu'un se pointe en disant « je fais partie de la Cosa Nostra, tu vas me donner 10% de tes recettes pour te protéger », vous le renvoyez directement à la porte. Si vous savez ce qu'est la Cosa Nostra et ce que ça représente, vous acceptez. Donc je ne pense pas que ce soit paradoxal.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il est la preuve vivante, ou plutôt survivante, qu'il y a plus dangereux que la mafia chinoise, la street food vietnamienne. Encore convalescent de ce plat de nouilles sautées aux crevettes qu'il a eu le tort de choisir au Délices d'Hanoï lundi soir, il a perdu 7 kilos et sa moquette est la réplique que j'avais écrite, mais pourquoi ne pas citer plutôt les propos de Manon Mariani, la poète de la bande ? Je l'ai croisé dans le métro, j'ai cru qu'il allait me chier dessus, me disait effectivement Manon au lendemain, sick, comment dire, en littérature. Pierre Courat nous revient malgré tout
chic,
pour cette séquence préférée des retardataires et des étourdis et aussi des amateurs de poésie. Tout ce qu'on s'est dit sur les triades, mais résumé en une minute chrono, Pierre.
Allons-y, les triades, c'est donc le nom générique que l'on donne aux mafias chinoises. Il y en a 6 importantes, mais elles seraient en réalité une dizaine, un réseau tentaculaire qui s'étend essentiellement depuis Hong Kong, Taïwan et Macao jusqu'en Europe et en Amérique. C'est ce réseau qui est soupçonné de participer au trafic de fentanyl, un puissant opioïde qui provoque des ravages actuellement aux États-Unis. notre invité, le journaliste Antoine Vidkin, a enquêté sur ces triades. Il nous a raconté comment il a rencontré l'un des chefs suprêmes de cette organisation, le tyran de fer. Une mafia d'abord née de la volonté de détruire le système impérial chinois et qui s'est rapidement muée en une organisation criminelle. Bien organisée, elle possède ses propres règles, mais elle ne se cache pas vraiment, contrairement à la mafia calabraise. La preuve, notre invité en a fait un livre et une série documentaire. En fait, les triades sont aussi discrètes que Manon Mariani en week-end à Barcelone. Chez nous en France, la spécialité plutôt des triades, c'est le blanchiment d'argent. Difficile en revanche pour la police française de remonter jusqu'au sommet de cette mafia. Nous n'avons pas la même culture anti-mafia que l'Italie ou la Grande-Bretagne, nous a précisé notre invité. Finalement, la question qui reste sans réponse définitive encore aujourd'hui, c'est le lien réel ou supposé et les intérêts que le régime de Pékin peut trouver vis-à-vis des triades.
J'ai l'impression que cette histoire du triade fait beaucoup rire Cyril Lacarrière. Et Antoine Vidkin, vous avez quelque chose à ajouter, on en parlait hors antenne, c'est important, c'est dire que les mafias, elles sont toujours liées aux dictatures.
Exactement, pour rebondir sur ce que vous disiez, l'actualité est très légère, c'était très sympa de se détendre en parlant des triades.
Ça, toujours.
Mais effectivement, pour relier les triades à l'actualité, toutes les dictatures, à commencer par la dictature poutinienne en Russie, marchent de concert avec des mafias. Et je crois que c'est la raison pour laquelle s'intéresser aux mafias, aux triades notamment, c'est utile aujourd'hui, parce que c'est aussi, d'une certaine manière, s'intéresser à des dictatures. La violence politique, ça va de pair avec la violence criminelle, et c'est l'une des raisons, peut-être même la raison principale pour laquelle je me suis lancé dans cette enquête qui a duré 2 ans.
Je rappelle le titre, Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, c'est chez Talendier. Lui, il était en passe de rejoindre un gang de bikers, mais n'arrivant pas encore à rouler sans les petites roues latérales arrière, il est finalement avec nous. Bonjour Harold Barbet.
C'est vrai que j'étais pas loin d'y arriver. Ça m'aurait plu, ça m'aurait vraiment plu. C'est marrant parce que tout le monde est fasciné par la triade, les gangs, la mafia en général. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est plus excitant d'entendre parler de raquettes, de meurtres et de vengeance que de l'amicale associative des gens gentils de Saint-Cirq-la-Popée ? Alors hier, on a donné des cerises aux voisins pour pas qu'elles soient perdues et on a aidé le chat de Madame Soulard à descendre d'un arbre. Superbe, on s'en branle. On veut du crime, on veut du crime. Et je crois que quelque part, j'aurais aimé être dans une triade. Je trouve ça fascinant. En plus, rejoindre la triade, c'est la seule option où me faire le combo calvitie tresse sur la nuque pour être toléré par mes proches. Le seul truc qui me fait un peu tiquer à l'idée de rejoindre une triade, c'est les surnoms que les mecs se donnent. Genre la mouche, la clope, canard sec. Canard sec, ça fait vraiment produit de canalisation. Oh, mais le siphon est encore bouché. Oh, bah ça, c'est encore Didier qui s'est rasé le zboub au-dessus du lavabo. Mets-y un petit coup de canard sec.
Oh,
dans votre documentaire, Antoine, il y en a un qui s'appelle le Vaurien. À quel moment on t'accueille dans un gang, mais on te donne un surnom humiliant comme le Vaurien ? C'est pas ultra flatteur. Le gars file des surnoms selon son humeur, en fait. C'est toi le petit nouveau ? Tu t'appelleras le Vomi maintenant. Bah, c'est déjà pris, ça, patron. Ah bon ? Bon, bah la merde, tu t'appelleras la merde. La grosse merde, même. Et ça démarre tout, la triade. À 15 ans, tu peux être dans la triade. En France, si tu veux lancer ta carrière à 15 ans, il n'y a que le CAP agricole. Tu préfères quoi ? Allez, gamin, aller racketter des gens et qu'on te respecte ou porter des bottes en caoutchouc et qu'on t'appelle le bouseux. Non, bah, je sais pas. À 15 ans, des adolescents commencent dans les triades à recouvrer des dettes impayées. Je m'imagine, moi, à 15 ans, aller menacer les parents d'élèves qui n'ont pas payé le carnet de tombola de leur gosse avec ma voix de crécelle. Faut que tu payes, Valérie. Et au moment où elle rigole car elle me prend pas au sérieux, bim, je me perce un de mes boutons d'acné et le pus part dans sa bouche. Oh, tu vois le bouton que j'ai sur l'épaule, Valérie. Si t'as pas payé demain, je te l'explose dans l'œil. Moi, à 15 ans, j'avais plein d'acné. Mes joues avaient la même texture qu'une pizza surgelée. J'aurais pu braquer des PMU. Couchez-vous, ou j'aurais peint les murs avec mon sébum. Tu me faisais la bise, c'est comme si t'éclatais du papier bulle. Voilà, j'ai bossé quand même.
Ah ouais, je vois, c'est visuel.
Bah, je voudrais rejoindre la triade, mais pas la branche professionnelle, la branche loisir. Triade for beginners ou Triade Kids, un truc pas trop dangereux. Je paye ma cotise de septembre à juin, je fais ça le samedi matin pendant que ma femme et mes gosses sont au marché à la cool, quoi. Et j'ai un projet pour notre équipe, les amis. Voilà, j'ai une idée. Quentin et moi, comme on est tous les deux originaires de Normandie, et vous-même, Mathieu, vous y possédez un pied-à-terre. Enfin, quand je dis pied-à-terre, j'entends un manoir avec 25 domestiques.
Pas du tout.
Est-ce que ça serait pas le moment de lancer notre propre triade ? La branche normande de la triade chinoise. J'ai même une proposition de nom pour notre branche. Camembert tourbé. On pourrait se faire tatouer un phoque dans le dos. Ça serait notre signe pour se reconnaître. Mais un tatouage qui se collait avec une éponge, comme ça on se fait pas engueuler par nos femmes. Après, le truc qui peut faire mal à notre triade, c'est que... Le Parti communiste français, bon, c'est pas le Parti communiste chinois. Ça a le même nom, mais c'est pas le même sport. Le communiste chinois, tu sens qu'il peut te briser la nuque rien qu'en croisant ton regard. Alors que le communiste français, tu l'énerves. Bon, il fait grève un 24 décembre et il passe le sandwich du wagon-bar à 11 euros. C'est quand même plus détente, quoi. Pour les surnoms, Mathieu, comme vous êtes grand, j'ai pensé à Banane Cavendish pour vous. Le titan d'acier pour moi, parce que c'est classe, et puis bon, c'est moi qui ai écrit la chronique. Et Malabar Bigou pour Quentin, comme il est hermaphrodite. Alors, qui prend sa licence avec moi ?
Oh bah là, tout le monde est avec moi.
J'espère bien.
On va se retrouver à Camembert Tourbé. Merci beaucoup, Harold Barbier. On se retrouve très bientôt dans Zoom Zoom et sur scène, hein, le 16 mars à Saint-Etienne, et à partir du 19 mars, tous les mercredis au théâtre Le Métropole à Paris.
Absolument.
Merci Antoine Mitkin de nous avoir éclairé sur le fonctionnement de l'emprise des triades. Je rappelle votre livre Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, c'est chez Talendier. Il y a aussi toujours le doc qui est disponible sur arte.tv. Zoom Zoom Zen.